On est en train de continuer notre étude encore sur les diverses positions qu'on a en Jésus. Il y en a encore. C'est pas de ma faute. Je suis en train de dormir. Le Seigneur me réveille à 3 heures du matin, puis il me fait méditer, puis il me donne d'autres idées. Aïe, aïe, c'est pas grave. Il dit de dire ce qu'il nous dit. That's it. On dit ce que, puis ça sert à tout le monde. Puis ça fait du bien parce qu'il y a des beaux sujets qu'on regarde tout ensemble, puis il est important qu'on regarde ces sujets-là. On n'en parle pas souvent, puis ça va nous fortifier dans le Seigneur encore plus. Le sujet qu'on regarde aujourd'hui, nous sommes, grâce au Christ, tenus dans la puissante main de Dieu. Puis c'est important de comprendre qu'on ne marche pas seul dans ce monde. Qu'on est dans la main de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait avec nos vies. Même si nous, on comprend pas tout ce qui nous arrive, je dis pas que tout ce qui nous est arrivé était dans la volonté de Dieu, mais Dieu nous guide dans les grandes lignes. Il y a des choses et des choix personnels qu'on prend. Des fois, on a des échecs, on a des chutes, on prend des mauvaises décisions, puis des fois, il faut vivre avec notre problème pour le reste de notre vie, mais quand on remet notre vie dans les mains de Dieu, il nous la garde, puis il nous guide, il nous conduit, puis il y a plein de versets dans ce sens-là. Avez-vous déjà entendu parler de la protection physique que des gens sont, des commerçants la plupart du temps, qui sont obligés de payer à des réseaux de drogue, des gangs de rue ou des gangs de motards, puis arrive ici, il faut que tu payes la protection ici. T'es bâti dans notre territoire, puis si tu veux qu'on te protège des autres gangs, va falloir que tu nous payes pour pouvoir qu'on te protège, puis tu vas nous donner tant à chaque mois, puis nous autres, on est les seuls qui vont avoir le droit de rentrer ici puis d'exercer nos commerces. Vous avez déjà entendu parler de cela? C'est pas juste à Montréal, c'est partout dans le monde entier. Même un prédicateur, un évangéliste que je connais, lui est obligé de quitter le Mexique justement à cause de ça. Dans son ministère avec le Seigneur, il avait une grande influence, puis il connaissait beaucoup de monde, puis il y a des cartels de drogue qui ont été le voir, puis ils ont obligé de participer à leurs affaires, puis lui, il n'en est pas question. Il est obligé de laisser ses deux maisons qu'il avait au Mexique, puis il a déménagé au Canada, parce que c'était dangereux dans ces coins-là à cause de cela. Je dis pas qu'il y a des avantages dans cela d'embarquer avec eux. C'est le monde des ténèbres, c'est la méchanceté, mais ça existe que des gens sont obligés de payer la protection, puis même des fois de dire des choses qu'eux autres t'exigent. Puis quand tu es pris au piège avec ce genre de personnes-là, mais faut que tu t'accroches au Seigneur, puis tu lui demandes aussi qu'est-ce qu'il veut que tu fasses. Mais ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est que Dieu... Lui, il nous offre une protection supérieure. Supérieure à tout ce que on pourrait avoir. Même si tu irais voir les Hells Angels, puis tu penses que t'as la gang pour te protéger, c'est rien que d'être protégé par le Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. D'embarquer dans son cercle des protégés par lui. Ça, c'est extraordinaire. Il veut surtout nous protéger notre âme du jugement éternel. Ça, c'est la plus grosse affaire qu'on a besoin d'être protégé. C'est beau de dire que tu as une protection physique, mais c'est rien si tu t'en vas dans les temps de feu pour l'éternité. Tu es perdu. Dieu, il a un plan de protection. C'est pas de la combine, c'est pas des assurances terrestres. C'est un plan de protection donné à cause du sacrifice de Jésus. La Bible nous dit que suite à notre réponse à l'appel de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Ça, je vous apprends rien, je le répète souvent. Mais quand tu es né de nouveau, t'embarques sur une nouvelle protection, une assurance vie, mais pas une terrestre, une qui vient du Seigneur Jésus-Christ.
La meilleure.
Dans Jean, au chapitre 10, le verset 27 à 30, Jésus nous parle. Puis je pense que quand Jésus dit quoi, on peut y croire. Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Jésus connaît ses brebis. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Il continue. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que moi. Oui, Jésus était dans une forme humaine, simple homme, pendant son 33 ans terrestre. Le Père est encore beaucoup plus grand que le Fils. Puis il dit, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne peut nous ravir de la main de Jésus, puis il dit, mon Père est encore bien plus grand, puis personne peut les ravir de la main de mon Père. Puis là, il ajoute, moi et le Père, nous sommes un. Dans ce passage-là, on a une promesse incroyable, que ceux qui sont bénéficiaires de cette promesse-là, ils ont une assurance qu'ils ne retrouveront jamais aucune autre protection semblable. Il dit, mes brebis ont la vie éternelle, elles ne périront jamais, puis je les tiens dans ma main, puis mon Père les tient dans sa main. Personne ne peut nous ravir de sa main. N'est-ce pas extraordinaire? T'as beau te connaître les clubs de motards que tu voudras, il n'y en a pas un qui peut te garantir cela. Ils peuvent te protéger physiquement, puis quand ils sont pas là, mais là, tu n'as aucune protection. Puis tu peux pas te fier ces humains, même si tu paieras le corps de la police, même si tu as une armée qui sera à côté de toi. Ça te garantit pas la vie éternelle, puis que tu ne périras pas. Une assurance vie éternelle, une protection extraordinaire. Faut pas être surpris d'entendre que Jésus nous tient lui aussi dans sa main. Parce que dans Jean 3, 35, Jésus dit, le Père aime le Fils, puis il a remis toutes choses entre ses mains. Fait que Jésus, il a présentement toutes choses entre ses mains. Puis il dit, il nous tient dans sa main. Oui, pendant un temps terrestre, il était plus abaissé en dessous des anges comme un simple homme. Mais il est ressuscité. Puis après sa résurrection, ça dit, tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre. Jésus est le Tout-Puissant. Puis si Jésus dit que mes brebis entendent ma voix, là, il y a une relation avec le Seigneur, je les connais et elles me suivent. Il y a une relation qui s'établit entre une brebis puis le Seigneur. Puis c'est pour ça qu'il dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront pas, je les tiens dans ma main, personne ne peut les voler de ma main, personne ne peut les voler de la main de mon Père. On est entre bonnes mains. C'était ça l'annonce qu'il y avait, Allstate. Allstate, l'annonce des assurances, c'était comme si tu étais entre bonnes mains, mais avec Allstate, t'es pas entre bonnes mains. Dans les mains de Jésus, t'es entre bonnes mains. Puis cette assurance-là commence au jour où ce que t'es né de nouveau, parce que t'es une brebis du Seigneur. Tu suis le Seigneur, t'appartiens au Seigneur. Les promesses du Seigneur sont pour toi. Tout ce que le Seigneur a préparé est pour toi. Crois-le, saisis ça par la foi, c'est à toi. Laisse-toi pas voler ce que le Seigneur te donne. C'est déjà promis, c'est garanti. Puis quand que le Seigneur dit quoi, il a le pouvoir de l'accomplir. Amen. Amen. Être sous la protection de Dieu, c'est d'être dans les mains du plus fort. Quand on est jeune, mon Père est bien plus fort que le tien. Ouais, mais le Père qui est plus fort, ça sert à pas à grand-chose parce que quand t'es jeune, tu penses que ton Père, c'est le plus fort. Mais quand t'es un enfant de Dieu, puis tu dis, mon Père, c'est le plus fort, mais t'as raison de le dire, il n'a pas d'équivalent. Dieu, c'est le Tout-Puissant. Même si l'ennemi, le diable, qui est un être extrêmement puissant, n'est rien comparativement à Dieu. Puis un verset qu'il dit dans l'Ancien Testament, il dit quand même l'ennemi se lèverait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il tient pas la route comparé à Dieu. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? T'as le plus fort sur ton bord. Tu t'accroches à Dieu et tu lâches pas ses promesses. T'es sur le bon bord. Amen. Dans Romains 8, 31 et 32, ça nous parle justement de ça. Ça dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est Dieu qui mène la patente. C'est lui qui mène l'univers tout entier. Il mène le ciel, puis nous, on réclame que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans le ciel. Même s'il y a eu une rébellion, Dieu n'a pas perdu le contrôle de rien, puis il tient encore les guides de tout. Puis les choses qui doivent se dérouler sur la terre vont s'accomplir comme Dieu les a annoncées. On est dans un temps où ce que les nations, Dieu les laisse faire. Ça ne veut pas dire que Dieu contrôle rien. Faut pas penser que Dieu contrôle rien. Comme un exemple, Jésus à plusieurs reprises, ils ont voulu l'assassiner. Ils n'ont pas pu rien faire tant que c'était pas l'heure décidée par le Père. C'est le Père qui a décidé du moment exact où ce que Jésus devait être assassiné. C'était déjà planifié d'avance, c'était prévu, puis il contrôlait tout ce qui s'est déroulé. Il pouvait pas rien faire avant, même s'ils ont essayé. Faut croire en notre Dieu. Il est le Tout-Puissant, puis il tient toutes choses dans sa main puissante. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui va oser plaider contre Dieu? Dieu, il est infiniment grand à perte de vue. Tu le vois pas à la fin. Même c'est le diable qui est un petit peu plus haut que nous autres, humainement parlant. Il est rien comparé au Dieu créateur de l'univers, de la création invisible et visible. On est sur le bon bord, frères et sœurs. En plus, si Dieu est sur notre bord en tant que juge et l'avocat, qui va nous accuser? C'est ça que ça nous dit dans Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui accomplit ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être sauvé. Dieu le Père a décidé d'envoyer Dieu le Fils venir accomplir la mission nécessaire, c'est-à-dire verser son sang comme étant la victime qui paye pour la dette des péchés de l'humanité. Si Dieu a fait de Jésus le juge, puis a fait de Jésus l'avocat pour défendre ceux qui sont sous sa garde, dans sa main, t'as le juge, t'as l'avocat, t'es sur le bon bord. Qui va t'accuser? Le diable sera même plus là pour accuser les chrétiens. C'est le contraire. La Bible dit, Dieu va servir de nous pour juger les anges. Ça va être bien plus pire pour lui, parce que lui, il est pas sur le bon bord. Tandis que tous ceux qui appartiennent au Seigneur, t'es un pardonné, t'es un racheté, t'appartiens au Seigneur. Tu détiens les plus grandes et les plus précieuses promesses qu'il n'y a rien de comparable dans ce monde. Des promesses que Dieu a prononcées, puis vont s'accomplir certainement. Amen. Qui peut condamner celui qui a mis sa foi dans le sacrifice de Jésus? Même Jésus prie pour nous. Quand tu lui appartiens, il a commencé un travail de prière pour toi. Dans Romains 8, 34, parce que là, je suis en train de vous de lire Romains, j'ai lu Romains 8, 31, 32, 33, 34. Dans 34, il dit, qui les condamnera, les élus? Qui va les accuser? Qui va les condamner? Christ, il est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, puis il intercède pour nous. Qui va être capable de condamner les élus? Qui va être capable de dire, eux autres, ils ne méritent pas d'entrer. Jésus va dire, j'ai payé la dette de leur péché. Il n'y a pas de réponse là-dessus. Personne ne va être capable de prononcer une condamnation. La Bible a dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il y a une assurance que tu peux avoir quand tu as confiance. Tu sais que tu es en Jésus. Tu l'as reçu, tu l'as accepté, tu l'as reçu. Tu gardes ta communion avec lui. Tu es en lui. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, merci Seigneur. Puis il faut les confesser, ces versets-là, parce que Dieu veut qu'on augmente en assurance. Oui, j'ai tombé un matin, j'ai péché, mais j'ai demandé pardon, puis le sang de Jésus me purifie de toute iniquité. T'es réglé à mesure quand tu confesses tes péchés. Va, laisse pas le diable te mettre des doutes pour dire que Dieu, il t'aime plus. Dieu a tout accompli pour que même le sacrifice de Jésus continue à pardonner tes nouveaux péchés que tu vas faire si tu les confesses. Puis il faut le croire, mais il faut le faire aussi. C'est pour ça que dans la prière du Notre Père, il dit, pardonne-nous nos offenses. C'est pas les anciennes offenses, on a déjà pardonné les nouvelles qu'on fait. Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons. Ça veut dire que notre continuité de vie, c'est de continuer à demander pardon. Si tu demandes pardon, t'es pardonné. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. On peut marcher dans une assurance qu'on est à jour avec le Seigneur, qu'on demeure en lui parce qu'on les confesse, nos péchés. Puis quand tu les confesses, un péché confessé, c'est un péché pardonné. Il est pas menteur. Nous, on a de la misère des fois à comprendre un si grand pardon. Mais dans l'Ancien Testament, il venait de sacrifier un taureau. Ça lui a coûté 2 000-3 000. Aujourd'hui, comment que ça coûte un taureau? Tu viens d'en sacrifier un. Tu t'en retournes chez vous, tu dis un autre, tu fais un autre péché en t'en retournant. Ah non, ça va en coûter un autre. Là, faut que tu rien en sacrifier un autre. T'as pas fini. Tandis que nous, le sacrifice de Jésus, il est efficace pour toute notre vie. T'as juste à demander pardon puis à confesser que tu crois que le sang de Jésus te purifie puis c'est fait, Dieu. T'es pardonné parce que Dieu a choisi d'établir ce système-là pour être pardonné. C'est Jésus qui a payé pour la dette de nos péchés. Quelle assurance qu'on peut avoir quand tu as confiance que t'es un pardonné, t'es un racheté, t'appartiens à Dieu. Il veut que tu développes une confiance, que tu t'approches de lui avec confiance. Faut pas que tu dis, oh, je suis trop pécheur, je peux pas m'approcher de lui. Si tu te sens trop pécheur, c'est parce qu'il y a des péchés que tu n'as pas encore confessés. Empresse-toi de les confesser, puis tu vas être à jour, tu vas pouvoir rentrer avec assurance devant le trône de grâce pour être secouru dans tes besoins. Dieu veut qu'on croie en son sacrifice. Amen. Romains 8:34, il dit, « Qui les condamnera? » Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, puis en plus il intercède pour nous. Fait que même quand ça va mal dans ta vie, tu peux être sûr que Jésus est en train de prier pour toi pour que tu t'en sortes. T'as tout sur ton bord quand t'appartiens au Seigneur. Mais faut que tu y crois. Si tu y crois pas, tu vas même abandonner malgré que tu sais que tout est ouvert. Tu peux quand même être méchant et paresseux puis abandonner. Mais on n'a pas question d'abandonner. On persévère dans la foi. On s'accroche à l'œuvre de Jésus-Christ. Puis on va confesser jusqu'à la fin de notre vie.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'un sauvé acceptera de le séparer de Jésus? C'est ça que ça nous dit encore dans Romains 8:35, en continuant à lire le texte de l'apôtre Paul. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Il y a, Il nous aime, il nous a acceptés dans sa gang, puis il nous assure sa protection. Qui va nous séparer de son amour? Il dit, serait-ce la tribulation, les problèmes de la vie. Là. Ça va mal, c'est tout ça qui va faire qu'on va lâcher l'amour du Seigneur? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse? Tu sais, quand t'as peur, puis t'as de l'angoisse, puis tu te sens oppressé, puis ça, tu te sens pampé en dedans de toi. Mais c'est tout ça qui va te séparer de l'amour de Jésus? Tu vas-tu laisser ça te séparer? Ou la persécution? Parce qu'il y en a qui passent des temps difficiles dans la persécution, mais les gens, il y en a qui continuent à garder la foi, même s'ils sont en train d'y mettre la corde au cou pour le pendre, ou d'y couper la tête direct sur un coin de la rue. Ils gardent la foi, ils laissent pas la persécution les séparer. C'est plus important de garder notre foi que tout le reste. Oui. Ou la faim, ben ça peut arriver des fois, on vit des temps difficiles, ben on a faim, puis là, Dieu m'a abandonné, j'ai faim, je lâche le Seigneur parce que j'ai faim. Ou la nudité, t'as rien à te mettre sur le dos, le péril, l'épée, selon ce qu'il est écrit, parce qu'il faut comprendre, c'est à cause de Jésus qu'on nous met à mort tous les jours, en tant que chrétien. On est appelé à vivre des tribulations, malgré qu'on est sous la protection de Dieu, malgré qu'on a toutes les promesses qui veulent nous emmener dans la vie éternelle, sauver notre âme de le jugement éternel. C'est aussi dit qu'on va être mis à mort tous les jours. Les chrétiens sont mis à mort, sont persécutés, ils ont toutes sortes de problèmes, c'est des attaques du diable, les attaques des méchants hommes. Puis, on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Faut pas être étonné que ça arrive à des chrétiens. Même si Dieu les protège, ses enfants, mais il permet qu'il y ait des chrétiens qui se fassent assassiner. Mais quels sont les avantages quand tu es dans ses mains au Seigneur? Il y a des avantages. Dieu veut, il fait quelque chose en nous. Si t'es pas mort, c'est parce qu'il y a encore de quoi faire avec toi dans cette vie. Il veut t'utiliser. Il veut te bénir. Il veut te conduire dans des œuvres qu'il a préparées d'avance. En gardant votre foi en Jésus pour votre salut, vous êtes déjà plus que vainqueur. Vous êtes déjà plus que vainqueur. Vous êtes déjà plus que des vainqueurs. Tu sais, quand tu es un vainqueur, tu dis, faut que je la cours la course pour être un vainqueur. Mais quand tu es en Jésus, tu es déjà plus qu'un vainqueur. Tu as déjà tout qui t'attend. C'est pas parce que tu as gagné la course, c'est parce que c'est Jésus qui l'a gagné la course. Puis il te donne son trophée. Merci Seigneur. En continuant dans le même texte dans Romains 8, 37 à 39, Paul, là, il avait vécu ça, lui. La tribulation, l'angoisse, les persécutions, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Il nous raconte sa vie, là. Il a fait naufrage, il a été lapidé. Avez-vous déjà été lapidé? Ça, c'est lancer des roches quand tant que tu meurs. Lui, il était laissé pour mort à terre parce qu'il a été lapidé. Ils ont cherché à y ôter la vie à plusieurs reprises. Il est en péril sur la mer avec il a fait naufrage avec le bateau, ce qui était. Il était enchaîné, il était en prison pendant une affaire comme 8 ans de sa vie qu'il était en prison. C'est lorsqu'il est en prison qu'il a pu écrire les lettres. Mais il a continué à servir le Seigneur, même en prison, puis il devait évangéliser à la planche tout le monde qui était là. Mais lui, il l'a vécu, là, toutes ces souffrances-là. Puis lui dit, dans toutes ces choses, en parlant de tous les problèmes qu'un chrétien peut passer, il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Puis Paul, il disait, j'ai l'assurance. Il était sûr, convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ça c'est les démons, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Êtes-vous comme Paul pour pouvoir affirmer, j'ai l'assurance. Avez-vous l'assurance de votre salut? Il y a le chant, il y a un beau chant que je t'avais d'apporter. J'ai l'assurance de mon salut. Parce que Jésus l'a tout accompli. Quand tu es en Jésus, tu es maintenant dans les mains du gardien de ton âme. C'est ce que ça nous dit dans 1 Pierre 2, 25. Ça dit, vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur. Pasteur, c'est un berger. Vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. C'est ce que je vous disais au début. Il veut qu'on ait l'assurance qui nous amène à la bonne place. Dans la vie éternelle. Il dit, mes brebis, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Ça, c'est ses promesses. On a le droit de saisir cette promesse-là et de dire, je ne périrai jamais, puis j'ai la vie éternelle. Amen.
Amen.
Confessons ces choses-là, gardons-les avec assurance. Il nous tient dans sa main puissante, c'est le gardien de ton âme. Il a le pouvoir de nous garder. Il est capable de tout rejeter ce qu'il veut. C'est lui qui décide de nos combats. C'est lui qui décide de ce qu'on va passer à travers. Il permet des choses. Mais il est toujours là. Puis il a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus est là aujourd'hui. Vous allez sortir d'ici, vous allez être dans vos autos. Il est là. Vous allez retourner chez vous. Il est là. Peu importe où tu vas, il est là. Tu es dans une épreuve, il est là. Tu es dans des choses difficiles, il est là. Il est toujours là, tous les jours. Il a pas pris de journée off là-dedans. Il n'y a pas de journée de maladie accumulée. Il est là, il est toujours là, tous les jours. Prends l'assurance qu'il est avec toi, puis toi, tu es avec lui. Tu marches à jour, tu es en lui, puis il tient dans sa main. Amen. Lorsque tu es gardé par la main du Seigneur, c'est lui qui mène ta barque. Tu es embarqué dans sa barque, puis là, tu t'avances, elle s'en va où ce qu'il faut qu'elle y aille. Lorsque tu es gardé par la main du Seigneur, il veillera à ce que tu ne perdes pas la foi dans tes épreuves. Puis c'est écrit, c'est ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre. Jésus, dans Luc 22, 31 à 32, Jésus dit à Simon, Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Cribler comme le froment, là, quand tu passes au crêbe, c'est qu'il est écrasé. C'est le grain, mettons, tu prends du blé, puis tu le passes dans la machine, puis tu l'écrases, le grain. Mais Satan a réclamé Pierre, l'apôtre Pierre, pour l'écraser bien comme il faut. Ou le réduire en poussière. Jésus n'a pas empêché que le diable attaque Pierre. Tout à l'heure, j'ai dit, Jésus est à la droite de Dieu, puis il prie pour nous, il intercède pour nous, mais c'est ce qu'il a fait dans ce cas-là. Jésus répond, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Il n'a jamais dit qu'il empêcherait qu'on ait des persécutions, des problèmes, la nudité, du péril, l'épée. Il dit, c'est à ça qu'on est destiné. Si ça est arrivé à Jésus, il faut s'attendre que ça l'arrive à ses disciples aussi. Le disciple n'est pas plus que le maître. Puis si Dieu permet que ça t'arrive, pendant que tu es dans cette épreuve-là, t'es écrasé comme le Pierre était criblé, écrasé, puis ça, c'est juste avant qu'il renie Jésus, puis c'est ça qui est arrivé, le diable a rentré dedans pour qu'il en arrive à renier Jésus publiquement, puis là, après ça, il s'est repenti, mais il dit, « Satan t'a réclamé, mais je prie pour toi pour que tu gardes la foi dans ton épreuve. » C'est ça qu'il a fait. Quand il dit, il intercède pour nous, c'est ça. Jésus prie pour que tu persévères dans la foi jusqu'à la fin. Dans tes épreuves, dans tes combats, Jésus est avec toi, puis il prie pour que tu gardes la foi pendant que tu te fais écraser. Mais, Jésus a rajouté, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire à Pierre, tu vas tomber. Satan, il te réclamait, tu vas être écrasé. Garde la foi. Je prie pour que tu gardes la foi. Puis quand tu vas être relevé de ton combat, serre moins. Travaille parmi mes frères et sœurs. Mais que tu sois converti, affermis les frères. Serre-moi dans l'Église. Travaille dans l'œuvre que je mets devant toi. C'est ça qu'on est appelé. Relève-toi puis continue. Je suis encore là. Jésus nous dit qu'il est encore là. Merci Seigneur. Jésus, pendant que tu es dans sa main, il permettra pas que tu aies des épreuves plus grandes que tu es capable d'emporter. Dans 1 Corinthiens 10, 13, ça nous dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voyez-vous l'intercession, la prière pour nous, il va te donner la force. Puis les épreuves, ils vont être contrôlés. Tout ce qui nous arrive, c'est contrôlé, permis par Dieu. Imaginez les pires affaires qui vous arrivent depuis que vous êtes chrétien. Mais c'est contrôlé par Dieu, puis il n'a pas permis que c'est au-dessus de vos forces. Il a prié pour que vous gardiez la foi dans vos épreuves, puis vous êtes encore là, puis là, il vous demande, il vous a même montré une porte de sortie. C'est le même. Quand il tient dans sa main, tout est mis en place dans sa volonté. C'est lui qui contrôle les événements. On peut y faire confiance, je pense. Encore plus fort que ça, à cause qu'il tient dans sa main, tout ce que tu vas vivre servira pour ton bien. Tes pires affaires qui t'ont arrivé, c'était pour ton bien. Dans Romains 8, 28, ça nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Êtes-vous des gens qui aiment Dieu? Avez-vous été appelés selon son dessein? Donc, tout ce que vous êtes en train de vivre, les bonnes affaires comme les moins bonnes, pour nous, ça semble moins bon, mais ça nous dit tout ce qui nous arrive, c'est pour ton bien. Il est capable d'utiliser Dieu, parce que tout ça entre ses mains, il est capable d'utiliser tout ce qu'on est en train de vivre pour nous rendre plus forts, plus proches de lui, plus bénis, plus de récompenses. Il sert de tout pour notre bien. Il est en train de nous préparer une place, puis toutes les œuvres qu'il a préparées d'avance, c'est dans le but de nous préparer la meilleure place. Amen. Vous pourriez pas choisir un meilleur chemin que prendre votre croix puis de le suivre. Moi, il faut que je prenne la mienne. On prend chacun notre croix. On n'est pas là pour porter la croix des autres. On peut les aider à porter leur croix un petit bout. On s'entraide. Mais moi, j'ai la mienne. Chacun a la leur. Puis Dieu sait ce qu'il fait. Il a nos vies entre ses mains. Amen. Il y a un beau psaume dans l'Ancien Testament qui nous parle du secours de Dieu. Dans le psaume 121. Il y a seulement 8 versets. Je vais vous le lire rapidement. C'est un psaume pour nous amener à faire confiance que Dieu a notre vie entre ses mains, puis qu'on peut se laisser diriger par lui, puis s'en remettre à lui, y faire entièrement confiance. Dans le psaume 121, ça nous dit, « Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » C'est pas n'importe qui. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, parce que le véritable Israël de Dieu, c'est nous. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le soleil, il ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, puis gardera ton âme. Quand je vous disais qu'il est le gardien de nos âmes, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est beau? Merci Seigneur de nous avoir écrit ces belles paroles-là. On peut faire confiance que Dieu, il a notre vie entre ses mains. Il dort pas. Celui qui a notre vie entre ses mains, c'est lui qui a créé le ciel et la terre et l'univers. Et tout ce que tu vois, c'est lui qui l'a fait. Tu peux y faire confiance. On a sa parole en plus, ses promesses en garantie. Merci Seigneur. Les seuls détails qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut, il y a cependant quelques conditions pour demeurer dans sa main. On est venu en Jésus, là, on est rentré dans sa main, mais il y a quelques conditions pour demeurer dans sa main. Il nous tient dans sa main, mais il faut demeurer dans sa main. Dans 1 Pierre 5, 6, ça nous dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Mais vu qu'il mène notre vie, faut apprendre à s'humilier pour rester dans la place que lui veut nous amener. Si on s'en s'enfle, on se pense bien capable, bien bon, mais Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Amanchons-nous pour demeurer là. Seigneur, c'est là que tu veux m'amener. C'est correct, on s'en va là. Si tu es capable d'accepter avec humilité qu'il te dirige dans son chemin, tu demeures dans sa main. Amen. Il nous demande aussi, pour demeurer dans sa main, qu'on persévère dans sa parole. C'est écrit dans Apocalypse 3:10. Tout à l'heure, je vous l'ai dit qu'il va nous garder, nous protéger, puis il contrôle les événements parce qu'on reste dans sa main. Puis, il fait cette promesse-là de nous protéger. Regardez bien ce qu'il dit. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Voyez-vous, il promet dans ce verset-là de nous garder, mais il y a une condition. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en Jésus. L'idée, c'est que Dieu, il est prêt à te garder, à te guider, à te conduire, à te protéger, à te garder dans la foi, à garder ton âme, puis t'amener là. Mais il faut que tu le veuilles, t'acceptes de te soumettre puis de persévérer à rester en lui. C'est pas, ça se fait pas tout seul. C'est un acte d'obéissance de notre part, de demeurer en communion avec lui. Ça le dit autrement dans d'autres versets. Il nous demande de ne pas débarquer de ses mains. Il nous le dit dans Jean 15, 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » C'est Jésus, tu peux pas l'accepter, puis demain matin après ça, là, il arrive des affaires, moi, je ne peux rien savoir, moi, je longe tout. Puis là, il se livre à sa vie du passé. Tu retournes à ce que tu étais avant. On n'a pas besoin de ça, là. Reste en lui. C'est à cause que tu es entré en lui qu'il t'a dans sa main. Reste là. Il dit, personne va te sortir de là, mais toi, débarque pas non plus de là. C'est le seul qui peut te débarquer. C'est toi qui décides de débarquer. Tant que tu veux rester en Jésus, tu vas rester, puis il n'y a personne qui va être capable de t'enlever de là, parce qu'il tient ta main, puis il te guide, puis il te conduit. Reste en communion avec. Demeure dans le chemin. Persévère dans la foi. C'est toutes des synonymes. Ça veut tout dire la même affaire. Puis il dit, demeure en moi, puis je vais demeurer en vous. C'est ce qu'il dit. Il n'est pas menteur. Il sortira pas. Le dernier verset, je vous ramène sur le premier verset que j'ai lu dans Jean 10, 27 à 29. Pour être gardé dans sa main, écoutons sa voix, suivons-le jusqu'à la fin. C'est ce qu'il nous a dit dans Jean 10, 27 au début. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. C'est ça, de demeurer en Jésus. C'est suivre Jésus, entendre sa voix, l'écouter, accepter qu'il nous parle, puis d'obéir. C'est ça qui est de garder le contact. À cause qu'on est, on est ses brebis obéissantes, qu'il l'écoute, puis premièrement, on l'aime, on l'écoute, on veut avancer dans notre vie, on veut être changé. S'il nous parle sur une affaire, oui, Seigneur, c'est vrai, je suis comme ça, pardonne-moi. Il te pardonne. Il veut nous amener à être comme lui, comme Jésus. Ben, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Il connaît les celles qui marchent avec lui. Elles me suivent. Puis là, il dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne va les ravir de ma main. Mon Père qui me les a donnés plus grand que tous. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Gloire à Dieu. Persévérons, demeurons en lui, dans ses mains. Le meilleur est à venir. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole, pour tous les beaux versets qui nous fortifient à demeurer en toi, puis à croire qu'on est entre bonnes mains. On est dans tes mains. Puis merci de l'œuvre que tu vas faire à travers de nous pour nous contrôler dans nos bons jours comme dans les mauvais, puis nous faire comprendre ce que tu veux nous faire comprendre dans toutes ces choses. On veut être à l'écoute de ta voix, puis on veut marcher, te suivre, te servir. Merci de ce que tu as préparé pour nous. On remet nos ventres entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen.